Bonjour à chacune, à chacun. Alors effectivement, je m'appelle David Rosset, puis je suis le pasteur de cette communauté ici. Et puis, ce matin, je vais vous raconter une histoire. Celle d'un homme qui a vécu au 1er siècle de notre ère, en l'an 0 ou un peu plus, peut-être en l'an 30, on ne sait pas exactement. Cet homme, il n'a pas de nom, mais c'est un anonyme extrêmement célèbre, puisque 2000 ans plus tard, on parle encore de lui, et son histoire nous interpelle et nous met en route. Alors je me suis dit qu'une histoire qui interpelle et qui met en route, il n'y a rien de tel pour commencer une nouvelle année. Alors écoutez bien. On a quand même quelques infos sur cet homme. Une fiche signalétique bien sommaire. Il est jeune, il est beau et il est riche. Bon, il y a un trop d'adjectifs, vous devinerez lequel au fur et à mesure du récit. De plus, il a un poste à responsabilité au sein d'une multinationale romaine ou bien dans sa propre entreprise. On ne sait pas exactement, les sources ne concordent pas. Bref, ce jeune homme, il a tout ou presque pour réussir et avoir une vie heureuse. La classe. Pourtant, il lui manque quelque chose. Dans ces cas-là, on pense à quoi en premier ? Il lui manque une épouse, non ? On n'en sait strictement rien de sa situation privée, mais au vu des informations qu'on a, je ne pense pas que ça devrait être trop un souci pour lui. Il pourrait peut-être lui manquer une nouvelle résidence secondaire au bord de la Méditerranée. Surtout qu'à cette époque, il devait y avoir encore plein de belles parcelles et très bon marché, donc au niveau investissement, c'était excellent à tous les coups. Mais ce n'est pas ça qui lui manque. Il lui manque encore autre chose. Parce que figurez-vous que cet homme, il n'est pas aussi terre-à-terre que moi. Il est même très croyant. Ce qui lui manque ne concerne pas ce monde ici-bas. Il lui manque l'assurance ultime, la vie éternelle, rien que ça. Et pour obtenir une réponse à cette question qui le taraude, il n'hésite pas à descendre de son piédestal. Au vu et au su de tous, il se mélange à la foule pour s'approcher d'un spécialiste et d'un maître dont il a entendu parler, comme ça. Vous l'avez deviné ? Il se met en travers de la route de Jésus. Alors oui, il le fait de façon excessivement polie, en y mettant les formes, en l'appelant bon maître. Mais dans la foulée, et en juration on dit droit direct, il pose la question qui le tarabuste. Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? De manière assez classique chez lui, Jésus lui répond en faisant quoi ? On lui pose une question. Ah, malin. Mais bon, la question est plutôt rhétorique et il ose quand même tout de suite une autre réponse. À la question du jeune homme de savoir ce qu'il doit faire pour obtenir la vie éternelle, il lui répond en lui rappelant d'obéir aux commandements donnés à Moïse sur le mont Sinaï, ce qu'on appelle les 10 commandements. Le jeune homme l'interrompt tout de suite. C'est bon, bon maître, ça je le fais déjà, pas besoin de me le rappeler. C'est quand même impressionnant, hein. Il est beau, il est riche, il a des postes à responsabilité et en plus, il obéit à tous les commandements. Au niveau éthique, on n'a jamais fait un chef comme ça. Il est quelqu'un à la piété irréprochable. Et pourtant, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que Jésus va bien vouloir lui dire de plus pour répondre à sa question existentielle ? Qu'est-ce qu'il peut encore bien lui dire ? Dans un premier temps, il ne lui dit rien du tout. Dans un premier temps, il se contente de regarder ce jeune homme. Et le texte nous dit que son regard était rempli d'amour. C'est la seule fois dans l'évangile que le texte nous précise que le regard de Jésus était rempli d'amour envers quelqu'un. Jésus aima ce jeune homme venu à sa rencontre. Quelque chose de profond le touche dans la démarche et de l'attitude de ce jeune homme. Puis, et seulement dans un deuxième temps, il se permet d'appuyer là où ça fait mal. Jeune homme, il te manque encore une chose, une seule. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. La discussion s'arrête là. Net. Une fin abrupte pour une rencontre qui avait pourtant très bien débuté. L'invitation de Jésus à venir et à le suivre, va rester sans réponse de la part du jeune homme. Il reste sans voix, comme pétrifié et surtout triste. C'est en effet la dernière information qu'on a sur ce jeune homme, c'est qu'il repart tout triste de sa rencontre avec Jésus. On n'en sait pas plus pour lui. Est-ce qu'il va tout vendre ? Va-t-il écouter ce que Jésus dit ensuite à ceux qui l'entourent ? Va-t-il rester avec cette question toute sa vie durant ? Ces questions resteront toujours ouvertes, à vie. Par contre, nous savons comment Jésus conclut cette rencontre. Il commence par observer la réaction du jeune homme et sa tristesse. Il ne cherche pourtant pas tout de suite à le consoler. C'est étonnant, hein ? Comme s'il réfléchit à haute voix, il souligne la difficulté de concilier richesse et accueil du royaume de Dieu. Mais ce n'est pas le thème de ma prédication ce matin. Ceux qui sont autour de lui continuent de l'écouter attentivement et sentent qu'il y a quelque chose qui se joue là. Puis Jésus répond à une deuxième question, celle posée par les mêmes personnes qui l'entourent, les autres personnes qui ont vu le jeune homme s'approcher et qui ont été interpellées par cette question parce qu'ils s'y sont retrouvés dans cette question certainement. Comme nous d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'ils lui disent à Jésus ? Tu viens de renvoyer ce jeune homme, il est parti tout triste, mais que faut-il faire alors pour être sauvé ? Et Jésus répond de manière décisive, une fois de plus, « Rien. Vous n'avez rien à faire. Cela ne dépend pas de vous. » Et pour reprendre ces mots, dans Luc 18, 27, « Ce qui est impossible pour les êtres humains est possible pour Dieu. » C'est ainsi que se conclut cette rencontre unique et universelle à la fois. Il n'y a pas de magnifique happy end. Moi, je m'attendais à ça, hein, style hollywoodien, où Jésus... Et le jeune homme riche tomberait dans les bras l'un de l'autre, il pleurerait beaucoup, il se dirait « on s'est rencontrés ». Non, c'est beaucoup plus sec que ça. Le jeune homme repart tout triste et Jésus laisse ses questions et ses réponses de manière craque et de manière interpellante. Il nous laisse aussi à nous. Une réponse courte, concise, précise, presque lapidaire, mais qui a une portée décisive pour la vie de ceux qui l'entourent et par extension pour notre vie. Cette question du jeune homme riche, si j'allume ça va mieux aller. Cette question du jeune homme riche, ce que dois-je faire, c'est souvent la nôtre, non ? Dans une société pragmatique, gouvernée par des technocrates et des managers, elle tombe sous le sens. C'est une question dont on a tous les jours l'évidence. Nous sommes toujours dans le même mode de pensée, et peut-être plus que jamais que ce jeune homme dont nous venons de découvrir l'histoire avec Jésus. Mode de pensée où nous devons prouver que nous y arrivons, prouver que nous pouvons faire quelque chose, faire valoir nos compétences, faire valoir nos forces, faire valoir tout ce que nous avons, et puis souvent le faire valoir au premier sens du terme. Pour obtenir ensuite une récompense financière sonnante et trébuchante, un peu comme ce jeune homme, pour accroître finalement notre richesse, mais surtout notre richesse matérielle. On est toujours dans ce « que dois-je faire ?». Et puis, pour ce jeune homme, arrivé au sommet de cette pyramide de la réussite sociale et religieuse, le voilà qu'il expérimente une dégringolade absolument phénoménale. Alors qu'il pensait toucher le ciel et obtenir la vie éternelle, voilà que le Fils de Dieu le ramène sur terre. Il y a des paradoxes troublants et drôles à la fois. Le Fils de Dieu qui ramène quelqu'un sur terre. Alors qu'il pensait toucher le sommet de sa vie après sa rencontre avec Jésus, qu'il pensait terminer cette magnifique quête du fer et toucher la vie éternelle, le voilà qu'il repart penaud et tout triste. On le sent presque abattu. Le piège de la tristesse se referme complètement sur lui. Tout le contraire de la joie qui nous anime aujourd'hui, pour fêter. Le piège de la tristesse parce qu'il se rend compte d'une seule chose, que par ses propres moyens, il n'y arrivera jamais à cette quête de Dieu et de la vie éternelle. Par ses propres moyens, il n'ira jamais toucher cette plénitude que seul Dieu peut nous offrir. On le laisse là, tout triste. Jésus répond en deux fois. Il répond dans un contexte, comme je vous l'ai dit dans cette petite histoire. D'abord, il écoute et il aime le jeune homme. Ensuite, il se permet des réponses toujours éclairantes est toujours déconcertante. Moi, c'est ce qui me plaît quand je lis ces rencontres de Jésus avec les personnes qui l'entouraient. Ses réponses, c'est toujours éclairant, mais c'est toujours déconcertant à la fois. On n'est jamais confortable après être sorti d'une rencontre avec Jésus. Toujours, il touche là où ça fait mal. C'est exactement ce qui se passe. Et puis, on touche un deuxième paradoxe, puisque la première réponse qu'il donne, elle concerne uniquement le fer, finalement. Qu'est-ce qu'il lui donne comme première réponse ? Vas-y, mets tes dents en action, vas-y, bouge-toi, vends tout ce que tu as, donc fais quelque chose, et ensuite viens et suis-moi. Et pourtant, il n'y arrive pas. Impossible pour lui. D'où la conclusion de Jésus et ce beau verset de Luc 18, verset 26-27, ce qu'il écoutait lui dire, « Mais alors qui peut être sauvé ?» Il répondit, « Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. » Jésus continue son dialogue avec ceux qui l'entourent. Il écoute attentivement leurs questions. Il sent bien qu'il y a quelque chose de fort qui se joue à ce moment-là. Il sent bien qu'il y a quelque chose qui les turlupine au plus profond d'eux et qu'ils ont besoin d'obtenir une réponse de sa part. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Qu'est-ce qu'il leur dit ? L'action de Dieu envers nous est toujours, toujours, toujours la première. L'action de Dieu envers nous est toujours la première. Le faire, de notre part, ne peut qu'être une conséquence de cette première action de Dieu. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est ce qu'on appelle le don de Dieu envers nous. Et puis, c'est notre raison principale de nous réunir chaque dimanche matin pour le louer par rapport à ce don premier qu'il nous a fait. Ce n'est pas nous qui faisons des trucs, ce n'est pas nous qui le chantons, ce n'est pas nous qui faisons tout cela. C'est d'abord lui qui vient et qui nous donne quelque chose. On le sait, mais c'est éminemment important de pouvoir se le rappeler parce que souvent, on est comme ce jeune homme riche. Souvent, on est dans le faire, dans le faire, dans le faire, dans le faire. Et puis, on essaye d'atteindre un espèce de sommet qui n'existe pas. Ce que Jésus dit en substance ce jour-là, qui veut bien l'entendre, c'est que l'amour de Dieu nous porte et nous libère de tout autre besoin. Tout autre besoin de légitimation. Tout autre besoin de reconnaissance, parce que la reconnaissance de Dieu est première, sans condition, et que l'on en soit digne ou pas. Que l'on en soit digne ou pas, cette action de Dieu, cette parole de Dieu sur nos vies, elle est toujours et continuellement valable. En révélant cette confiance première et totale qui nous est faite, quoi que nous ayons par rapport, par ailleurs à faire valoir ou pas, parce que ça c'est pas interdit, de loin pas, l'évangile de Jésus-Christ nous libère en quelque sorte du souci de nous. Et il nous rend ainsi disponibles. Disponibles pour nous, tels que l'on est, disponibles pour les autres, disponibles pour s'engager au service de tous. C'est pour ça que je vous ai essayé de vous résumer. C'est notre état, c'est que tout à faire, on a tout à faire après avoir reçu, ou bien ce paradoxe de nouveau, tout est donné, tout est à faire. On en est là dans notre vie chrétienne fondamentalement. C'est ce qui nous guide, c'est ce qui meut notre action. C'est que tout nous est donné de la part de Dieu. Mais dans le même temps, tout, absolument tout, est à faire. En ce début d'année 2017, on a envie de s'attarder et puis de réfléchir et puis surtout de nous mettre en route par rapport à cette vision qu'on a choisie pour nous, la FRAT, aussi pour la FRAT dans son ensemble, qui est de partager l'amour de Jésus-Christ avec chacun. Une vision qui nous porte résolument vers l'extérieur, qui nous porte résolument vers celles et ceux qui nous entourent. Ce sera aussi notre thème pour ce début d'année 2017. Alors en quoi cette histoire, cette rencontre nous parle de la mission ? En quoi est-ce qu'elle peut éclairer notre manière d'être au monde pour que nous puissions, nous, là où nous sommes, partager l'amour de Jésus-Christ ? La première chose, et puis c'est ce qui est fondamental, c'est ce que peut-être ça va un peu vous décevoir, parce que la première chose, c'est que ce qu'on n'aura pas une stratégie où on ne sera pas dans le faire. En allant sur le terrain de la mission, en premier lieu, c'est de recevoir cette promesse de Dieu sur nos vies, et puis c'est de croire que c'est seulement cette promesse de Dieu qui peut toucher les cœurs. Ça peut seulement être un don de Dieu là. Résultante ou le résultat de la mission de Dieu. C'est la mission de Dieu, ce n'est pas la mission de la FRAT. On rentre dans la mission de Dieu, ce qui est différent. Ce n'est pas la nôtre. On ne se l'approprie absolument pas. on rentre dans cette mission. Si on cherche à mesurer nos réussites au niveau de la mission puis de faire des statistiques, à coup sûr, ce fameux piège de la tristesse va se refermer sur nous comme il s'est refermé sur le jeune homme riche. À coup sûr, on sera déçu puis on aura dit « mais pourtant on a fait ci, ça, 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 ça et rien du tout ». Eh bien ouais, parce que ça ne dépend pas de nous, ce qui est impossible pour nous est possible pour Dieu seul. Ça nous donne une sacrée humilité de nous lancer sur ce terrain de la mission parce qu'on n'est pas dans les mêmes logiques que celles qu'on pourrait avoir dans tous les autres secteurs. Peut-être que l'avancement sera grande et puis on pourra glorifier Dieu. Peut-être que l'avancement s'annule. On n'en sait rien. Elle dépend de Dieu uniquement. Ce qui est impossible pour nous est possible pour Dieu uniquement. Notre réussite ne sera justement jamais la nôtre. Et ça, c'est la deuxième conséquence. Parce qu'on peut prendre le verre à moitié vide, on se dit, ben, même si ça ne donne rien, comme ça, ça nous console. Mais tout à coup, même si ça donnait énormément de résultats, cette réussite ne sera jamais la nôtre non plus. Elle sera uniquement celle de Dieu, parce que c'est fondamentalement toujours Dieu qui appelle. Et puis nous, le deuxième fer que l'on pourrait envisager, c'est ce fer qui est donné dans le fameux commandement à la fin de Matthieu, « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Que Dieu se révèle à quelqu'un ou ensuite faire des disciples, c'est deux choses différentes. Ce que nous, on peut peut-être envisager, et puisqu'on a à envisager, c'est comment est-ce qu'en tant que communauté, on accueille ces personnes, comment est-ce qu'on peut être une piste d'atterrissage pour ces personnes qui ont reçu la révélation de Dieu et qui ont besoin d'une communauté pour grandir, pour s'épanouir, pour croître dans la foi. Là, on a plein de choses à faire. Là, on a besoin d'être actif. Là, on a besoin d'être disponible avec ce qu'on a reçu de Dieu. Mais avant, en tout cas pas. Là, on est dans le faire, parce qu'on est dans le faire des disciples, clairement. On passe d'une chose à l'autre. La mission, c'est donc d'avant tout une attitude de cœur. Une attitude de cœur où nous, premièrement, on se rappelle qu'on a été touché par grâce et qu'on bénéficie de cette liberté unique d'être disponible pour les uns et les autres. Et puis, ça se sent, hein. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui bénéficie de cette liberté-là, on le sent et on touche cette parcelle de grâce qui est en lui. Vous voyez où je veux en venir, hein? Quand j'ai pas une très très grande expérience avec Freddy, hein? Moi je le connais à peu près depuis l'âge de 85 ans. Donc c'est quand même peu. 5 ans sur 90 ans, donc je le connais pas très très bien. Mais ce qui m'a frappé la première fois que je l'ai vu, ou les premières fois que je l'ai vu, c'est que je me suis dit, dans son regard, il y a de la joie, il y a une franchise, il y a quelque chose de clair là-dedans. Et je me suis dit, cet homme, il est certainement riche de la grâce de Dieu. Je ne sais pas, ça se sent. Ça se sent et ça se transmet. Et mon intuition s'est vite confirmée lorsque je l'ai entendu parler, puis tu l'as encore confirmé dans ta prière ce matin, que la grâce de Dieu soit sur cette église. Tu n'as rien demandé d'autre. Que la grâce de Dieu soit sur cette église. Cette liberté qui, une fois, t'a été donnée, elle permet d'être transmise sans se prendre trop la tête avec 1000 stratégies. C'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui transmet, c'est le cœur qui donne. Puis la deuxième personne qui est mise à l'honneur ce matin, c'est Raymond, avec ses deux projets-là, de Marathon des Sables, couplé avec ce que tu fais pour Compassion. Puis là, je me suis dit qu'il y a aussi un changement dans ta vie, parce qu'on en parle souvent quand on va justement... Quand je fais ton entraînement, hein, non? Quand on va courir ensemble, non, c'est moi qui tire la langue. C'est beau de voir à quel point tu as pu aussi mettre en pratique et en valeur ce que jeune homme riche a dit là, n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire de donner une priorité pour les pauvres, de donner une partie de sa richesse et de lier mission au loin avec la mission ici-bas et ici auprès, pas ici-bas, ici auprès. Parce qu'on pourrait penser qu'il n'y a que Compassion et que ça va être utile pour d'autres personnes, mais tu te démènes pour aller trouver des personnes, pour les inviter, pour nous en dire aussi un peu plus par rapport à ce repas de soutien. Et là, tu as une mission ici, à Nyon, en faveur de ces personnes qui seront au loin et qui vont bénéficier de ces dons-là. Parce que vous avez compris et intégré dans vos vies ce don premier qui nous est offert en Jésus-Christ. Alors là, on a deux exemples qui nous montre comme quoi cette gratuité, elle peut être donnée naturellement, dans la joie et dans un esprit de partage qui est le nôtre ce matin. Un esprit de joie, de partage et de fête qui nous permet d'ouvrir notre cœur aux autres. Alors mon vœu pour notre communauté, pour nous tous en 2017, c'est qu'on se laisse de plus en plus remplir par cette présence de Dieu, ce don de Dieu, pour que notre coupe déborde. Qu'on ne soit pas simplement des instruments dans la main de Dieu, c'est souvent une image qu'on emploie, mais j'aime bien de plus en plus cette image de nous voir comme des coupes qui débordons. On est rempli de ce que Dieu met en nous, et finalement on est tellement rempli que ça finit par déborder, puis toucher ceux qui sont autour de nous. Alors ma prière pour nous, individuellement, et pour nous en tant que communauté, c'est qu'en 2017, on puisse vivre véritablement cette expansion de la grâce qui est en nous, et qu'elle puisse déborder dans nos familles, dans nos cercles d'amis, sur nos places de travail, sans que nous cherchions à faire quoi que ce soit, mais d'abord à recevoir tout ce que Dieu en réserve pour nous. Amen.